Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs sur Radio Okapi. Le personnel du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 est en grève depuis le lundi 6 juillet 2020 dernier à Kinshasa. Dans un mémorandum adressé au président de la République, il réclame les 3 mois d'arriérés et 2 salaires. Entre-temps, le vice-ministre de la Santé accuse le ministre de la Santé, Teni Longondo, d'une gestion opaque des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, le ministre de la Santé, quant à lui, demande qu'une enquête soit diligentée pour éclairer la lanterne de la population. Alors, comment analysez-vous cette actualité? Vous êtes près de 9924 à avoir été touchés par ces sujets. 666 parmi vous ont interagi et 107 l'ont commenté et partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Participez en direct, si vous le voulez, au 081 890 63 30 ou bien au 081 890 49 69. Vous pouvez également commenter ces sujets à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien sur notre page Facebook. Pierrot Lamegi et Sylvain Baugueré concourent à la production de cette émission. J.R. Lugembo Luabung Anji est à la présentation et à la coordination de ce programme. Bonne condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Félix Kabangé, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Alors, honorable, vous êtes ministre honoraire à la santé et actuellement dans une commission qui a la charge, d'ailleurs, de ces secteurs de la santé au niveau du Parlement. Alors, la première question, comment analysez-vous cette actualité qui met, en tout cas, sur les projecteurs, les personnels du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte, qui sont en grève depuis le lundi 6 juillet. Je crois que vous avez eu vent des mémorandums qu'ils ont adressés au président de la République. Ils réclament les 3 mois d'arriérés de salaire. Où est passé le fonds de solidarité pour la lutte contre la Covid?
En ce qui concerne cette actualité, sincèrement, je dois dire que c'est quelque chose d'inadmissible parce que vous savez que ce personnel-là qui est en avant-plan pour la riposte contre le coronavirus c'est un personnel qui est exposé. C'est un personnel qui prend de risques. Nous avons vu qu'on a donné un barème pour le paiement de ce personnel, mais malheureusement, quand vous voyez les montants qui sont alloués, ils ne sont pas proportionnels justement au risque que ce personnel est en train de prendre. Qu'à cela ne tienne, il fallait que ce montant-là soit payé régulièrement. 3 mois d'arriéré pour autant de risques, c'est une situation très catastrophique. Nous ne pouvons pas condamner ce personnel. Ils n'avaient pas de choix parce qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler dans ces conditions. Mais nous pensons justement que le gouvernement va pouvoir très rapidement remédier à cette situation quand la commission de l'Assemblée nationale, parce que quand notre commission a rencontré le Premier ministre, c'était parmi les premiers sujets, c'était parmi les sujets importants que nous avions déjà posés en son temps au Premier ministre. Le Premier ministre nous avait répondu clairement qu'il y avait de l'argent pour payer ce personnel, mais il se posait juste un problème des listes. En fait, le personnel avait été payé une première fois, mais pour la deuxième fois, il avait été demandé que les structures de santé ou les structures qui utilisent le personnel de riposte envoient directement les listes au comité national multisectoriel de riposte afin que l'argent soit directement payé dans chaque structure. Mais dans la suite, il s'est fait que, après analyse au niveau du ministère de la Santé, le ministre de la Santé avait signalé que ces listes avaient été gonflées et qu'il fallait faire la vérification de ces listes afin d'authentifier réellement les personnes qui étaient en train de travailler. Nous avons été surpris de constater que ce processus a pris énormément de temps, au point qu'aujourd'hui on se pose la question, est-ce que l'argent est réellement disponible ou c'est seulement ce problème de liste qui fait que jusqu'à présent on se retrouve avec 3 mois d'impaiement.
Alors la population se pose la question, par où est passé les fonds de solidarité, parce qu'on pensait qu'effectivement ce sont allait être la solution à ces genres d'incidents, ces genres de problèmes.
Je ne saurais pas répondre à cette question parce que, comme vous le savez, le Fonds national de solidarité contre la riposte à la COVID-19, et c'est une institution qui est directement rattachée à la présidence de la République. Et donc, au niveau de la commission, nous n'avons pas entendu le fonds. Tout ce que nous savons, c'est que le CNSS, par exemple, a donné 1 million de dollars. Nous savons également qu'il y a eu d'autres partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, qui ont pu intervenir soit directement à partir du fonds, soit en passant par la primature. Et lorsque nous avions rencontré le Premier ministre, nous avions juste eu l'information selon laquelle le fonds aller descendre dans certaines structures pour payer certaines prestations, mais il est important, nous pensons que c'est très important parce que ce fonds est pratiquement un établissement, même si c'est pas un établissement public, mais ce sont des fonds publics qui sont en train d'être gérés par le fonds. Il est important qu'on puisse rendre compte au peuple par rapport, un, à tous les montants qui ont été reçus, et deuxièmement, à l'utilisation de ce fonds. Et nous pensions d'ailleurs qu'il était question que le fonds se réfère au comité national multisectoriel, surtout que dans ce fonds, nous avons le ministre de la Santé, ainsi que le secrétaire technique du coordonnateur secrétariat technique, qui sont membres, pour que les priorités soient identifiées au niveau des prestataires de terrain. Parce que le fonds, il gère le fonds en amont, en aval plutôt, mais en amont, nous avons le secrétariat technique qui mène les activités. C'est donc à ce niveau-là qu'on devait identifier les priorités de sorte que cet argent, ce qui est versé au niveau du fonds, puisse réellement aider à gérer la lutte. Parce que vous savez, nous avons 135 millions de dollars du plan de riposte qui ont été, dont les engagements sont couverts. Donc, et on est en train de dépenser progressivement de l'argent. Je pense que mi-juin, nous étions autour de 58 millions sur les 135 millions qui étaient déjà engagés et dont à peu près 42% qui étaient dépensés. Mais vous comprenez que quand le plan de riposte a été élaboré au mois de février, on ne s'attendait pas à avoir une pandémie qui allait prendre autant de temps. Donc il se fait qu'il y a sur terrain des priorités qui n'ont pas été prises en compte. Je prends l'exemple, le port obligatoire des masques. Avec une population qui est très pauvre. Nous pouvions nous dire que le fonds pouvait par exemple parrainer une organisation de l'Institut, par exemple les jeunes qui se sont organisés au niveau de l'Institut supérieur d'art et métier, par exemple des tailleurs, pour qu'ils fassent suffisamment de masques qui peuvent être vendus à 100 francs ou à 200 francs. Je n'ose pas dire des masques gratuits, parce que quand vous dites masques gratuits, quelqu'un viendra prendre 100 masques et il va les entasser dans sa maison. Il faut une participation. Et lorsque le masque est à 100 francs ou à 200 francs, nous disons que ce masque est accessible à toutes les couches de la population et à ce moment-là, on pouvait se dire que le fonds a contribué à quelque chose de positif. Le fonds pouvait intervenir dans un supplément, supposons que le gouvernement pouvait payer normalement la prime. Tout à l'heure, je vous ai dit que la prime était minorée. Donc le fonds pouvait dire, nous payons également le même montant de sorte qu'on paye le double, le triple, par exemple, de ce montant-là, afin de motiver ce personnel qui est dans la riposte. Le fonds pouvait être alloué à d'autres priorités, notamment dans la prise en charge. Vous avez certains médicaments, tels que les l'Ovenox, par exemple, qui est utilisé et qui coûte cher et qui n'est pas accessible dans les hôpitaux, mais qui prévient justement la coagulation du sang due aux actions de ce coronavirus. Par exemple, ils pouvaient dire pour ces médicaments qui coûtent cher et qui sauvent des vies, le fonds pouvait acheter les médicaments et les disponibiliser. Mais toutes les priorités pouvaient être bien...
Donc, si je comprends bien, ce qui en son temps fustigeait le 135 millions en disant qu'il était vraiment minoré et sous-évalué et qu'il fallait penser au-delà de ce plan budgétaire. Bon, ils ont raison. Mais la grande question aujourd'hui, que vous inspire cette confusion autour du montant décaissé par le gouvernement dans la lutte contre la Covid? Le gouvernement qui parle de 10 millions, le coordonnateur de la riposte, lui, il parle de n'avoir reçu que 1 million qu'il a pu utiliser que pour les étrangers.
Bon, je pense que je regrette infiniment et très sincèrement toute cette confusion. Et justement, le débat qu'il y a entre le ministre et son vice ne devait pas avoir lieu sur les réseaux sociaux ni sur le média, parce que ils sont tous tenus à la solidarité gouvernementale, et en tant qu'homme d'État, s'il y avait des dénonciations à faire, je pense que cela se serait fait à l'intérieur du gouvernement sans que ça n'explose à l'extérieur. Qu'à cela ne tienne, notre commission, là j'interviens en tant que président de la commission chargée de l'évaluation de l'impact des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la Covid, a rencontré le comité national multisectoriel. J'aimerais éclairer l'opinion quant à ce. Le montant qui a été décaissé totalement, il se chiffre à 28 millions de dollars américains. Mmh. Les 28 millions de dollars américains ont plusieurs répartitions. D'abord, il faudrait que tout le monde se mette à l'idée que les 28 millions n'ont pas été dépensés dans la riposte au niveau opérationnel. C'est dans le secteur de la santé et dans l'impact justement de ce secteur. Le premier secteur, c'est le secteur lié à la vaccination de routine et aux différentes campagnes de vaccination à travers le pays. N'oubliez pas, je pense que Radio Capi le dit souvent, la rougeole est en train de tuer plus que n'importe quelle autre maladie actuellement en République démocratique du Congo. L'année passée, la RDC a eu 300 000 cas de rougeole, dont 6 000 morts. Donc, nous avons perdu 6 000 enfants en 2019, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de suivi, de campagne de suivi et des campagnes de vaccination contre la rougeole. Par rapport à cela, le pays a des engagements avec Gavi Alliance. Et par 2019, le pays n'a pas payé ses engagements. 2020, avec la situation actuelle, le pays ne pourra pas non plus payer ses engagements, ni payer son vaccin, ses vaccins de routine. Par rapport à cette rubrique, le gouvernement a payé 16 millions de dollars. Donc il faut que les gens comprennent quand on parle des montants. 28 millions, il y a 16 millions de dollars qui
déjà
ont été
dépensés
pour
la vaccination.
Ce n'est pas le ministre de la Santé qui a pris l'argent, ce sont des engagements internationaux que le pays a honorés. 16 millions. Il nous reste 12 millions de dollars. Sur les 12 millions de dollars, c'est là que vous avez les 3 millions 400 que le ministre de la Santé dit avoir utilisé, et vous avez également, en fait, dans cet argent, vous avez d'une part les 1 800 000 que le ministre de la Santé avait reçu le 11 mars, c'est-à-dire juste après l'annonce de l'épidémie, et il y a les 1 400 000 qu'on a donné à... au secrétariat technique, et c'est ce qui avait permis de payer même le mois de mars. Donc, à côté de cet argent, vous avez 4 700 000 dollars qui ont été décaissés par le gouvernement central pour toutes les provinces de la République, à raison de 150 000 dollars pour les provinces non atteintes et 300 à 500 000 dollars pour les provinces qui sont atteintes en fonction du degré de la COVID-19 dans leur province. Donc, quand vous prenez tous ces montants, couplés maintenant à d'autres montants qui ont été donnés comme des mises à disposition de fonds, je donne l'exemple des hôpitaux qui ont été soutenus. Il y a 4 hôpitaux au niveau de Kinshasa, 4 grands hôpitaux au niveau de Kinshasa, qui ont reçu chacun à peu près 500 000, ça te fait déjà 2 millions. Donc quand vous prenez les 2 millions plus les 4 700 000, vous êtes à 6 700 000. Vous ajoutez avec les 3 200 000 du ministre, vous êtes déjà à peu près à 9 900 000. Nous sommes autour de 10 millions. Après, il y a eu d'autres actions, notamment des mises à disposition de fonds ou des actions de désinfection. Il y a eu les fonds qui ont été payés à la Direction générale de migration. Il y a eu des fonds qui ont été payés au niveau de la police. Tous ces services qui sont en train de travailler dans la
réponse. Voilà, donc je crois que nous allons recevoir d'ailleurs d'autres auditeurs. On va accueillir d'autres auditeurs. Les temps peut-être que vous les écoutez. Je crois qu'on va vous libérer parce que par rapport à votre temps également. Christian qui nous a rejoint, il est à Kinshasa et puis Constant à Lubumbashi, et les auditeurs qui vont placer un mot sur cette question, qui en tout cas n'ont pas compris. Ils ont beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette grève lancée par les personnels, vous l'avez même bien dit, qui sont exposés, et les, qui ont pris des risques en voulant participer à la riposte de cette Covid-19. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. C'est laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Les personnels du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 est en grève depuis le lundi 6 juillet 2020. Dernier à Kinshasa, dans leur mémorandum adressé au président de la République, ils réclament les 3 mois d'arriéré des salaires. Nous venons de suivre notre invité qui est du reste le président de la commission d'évaluation de l'impact de la Covid-19 dans la vie de la population, Félix Kabangé, ministre honoraire à la santé. Mais alors, nous allons accueillir les auditeurs qui vont échanger avec nous. Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour JR et bonjour à l'invité.
Comment analysez-vous cette actualité?
Merci JR de la parole accordée. Je commencerai d'abord à encourager le ministre, l'invité, qui a fait des analyses vraiment objectives sans pour autant chercher à les teinter d'une couleur politique. Nous savons la température qu'il y a entre eux dans la coalition, mais il a fait vraiment preuve d'une certaine autorité scientifique. Donc voilà, Pierrot, j'ai ce que moi je vous dirais, je vais directement aller aux effets que produiront ces grèves. Ces grèves produiront un certain nombre de faits, notamment les découragements du personnel soignant, parce que vous savez, vous êtes sans savoir que la prime ou un salaire a un caractère de motivation. Et sans la motivation, un fonctionnaire soignant n'arrivera plus à donner le meilleur de lui-même. Et au-delà de ça, c'est grâce aux primes ou surtout au salaire qu'il y a ce que nous appelons le lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Du moment où le personnel soignant ne touche pas leur salaire, en tout cas, ce lien est automatiquement coupé. Deuxièmement, Pierrot, hier, je vous dirais que cela va encore faciliter la propagation du virus. Parce que lorsque ils ne travaillent pas, automatiquement, il y aura contamination et finalement, il y aura plusieurs conséquences, dont la mort. Et finalement, pour citer Pierrot, je vous dirais que cette mort ou encore cette absence de travail va augmenter automatiquement les taux de mortalité dus au Covid-19. Alors, pour pallier à ça, moi, je crois que le président de la République, qui étant le garant, il peut même sacrifier son salaire. Parce que vous êtes sans savoir que ce n'est pas seulement le personnel soignant qui sont en grève ou qui réclament leur salaire.
Oui, mais quand vous évoquez l'intervention du chef de l'État, bon, on sait que dans les émissions précédentes, nous avons évoqué les cas de certaines autorités et même de députés nationaux qui ont mis la main à la poche et main dans le sac, à la patte, pour ne fût-ce que participer à la riposte, en sacrifiant les uns leur salaire, les autres leurs propres moyens qu'ils possèdent. Alors on se pose la question, c'est vrai, notre invité n'a pas évoqué cela, c'est tout cet argent, les salaires qui ont été mis à contribution pour que finalement on puisse participer, qu'on puisse vraiment mettre à la disposition pour la lutte contre la Covid, mais où est passée toute cette action des uns et des autres?
Justement, c'est une enquête indépendante et qui pourront facilement nous donner des conclusions vraies par rapport à la destination de toutes ces contributions. Mais ici, le chef de l'État ne doit pas seulement se contenter aux grèves du personnel soignant. Il doit aller au-delà. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui face à une pandémie, mais la famine ou encore les grèves ou les impayements demain ou datent de longtemps. Il y a les gens du ministère du plan qui sont impayés, le ministère de l'EPST, bref, dans plusieurs secteurs. Si les chefs de l'État sacrifient son salaire, cela pourra en tout petit peu résoudre ces problèmes. En attendant, pour les problèmes du personnel soignant, on peut facilement recourir à cette caisse qui a été créée. Question de diligenter des
enquêtes. Je ne sais pas, peut-être j'ai mal compris. Lorsque notre invité évoquait les 1 400 000 qui ont même servi de payer le mois de mars, je crois que le salaire du chef de l'État du seul ne suffira pas pour résoudre ces problèmes. Merci beaucoup, Christian. Constant, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, JR. Bonjour à l'invité.
Vous avez la parole. Quelle est votre réaction?
Oui, je commence par féliciter l'invité qui a donné des éclaircissements sur la façon dont ils ont géré l'argent, où l'argent a été décaissé. Mais nous regrettons parce que les gens qui ont donné leur vie qui ont sacrifié leur vie pour lutter contre le Covid-19 ne sont pas payés parce que il y a quelque chose de flou. Il y a le ministre qui dit avoir reçu 1 million. Il y a le vice qui dit que le ministre est en train de faire une gestion opaque. Et dans tout ça, nous comprenons qu'il y a une mauvaise gestion. Seulement qu'on a fait de cette situation une opportunité pour se faire de l'argent. Et même quand ils disent que la raison principale, c'est que les listes ne sont pas, dont le travail ne sont pas encore listés. C'est une raison qui n'est pas fondée parce que comment voulez-vous travailler avec des gens dont vous ignorez le nombre? Donc il y a même des fictifs, des gens que vous ne connaissez pas, qui peuvent être intégrés. Quand ils disent non, nous attendons les listes, comment ont-ils payé le premier mois? Et comment ne sont-ils pas capables de payer le deuxième mois s'ils évoquent cette histoire de liste? Donc dans tout ça, il y a quelque chose de flou et nous regrettons parce que c'est le ministre de Santé, c'est tout un groupe qui sont en train de gérer cet argent et ça part comme ça, on ne comprend pas ce qu'il y a.
Merci beaucoup, Constant. Alors, quand je lis le message de Trésor Founi, qui nous a écrit depuis la ville de Mbujimayi, je crois, il dit ceci, les autorités congolaises sont les autorités du ventre d'abord, pas des soucis du peuple. Monsieur le ministre a profité de l'occasion pour se remplir les poches illicitement en oubliant que ces temps est révolu, que justice soit faite. La justice qu'elle-même réclame, que lui-même réclame donc que cette justice soit faite. Et je donne raison au vice-ministre. Voilà, ça c'est le point de vue de Trésor Founi, vous êtes nombreux, on va découvrir des messages d'un moment à l'autre, parce que là nous sommes en train de découvrir à peine. Alors nous revenons à vous, monsieur Félix Kabangé, vous êtes honorable député et président de la commission d'évaluation de l'impact de la Covid-19. Quelle est votre réaction d'ailleurs après avoir écouté les deux auditeurs?
Merci beaucoup, je remercie Christian et Constant, ainsi que notre ami Trésor Founi pour leur réaction. La première des choses, je suis tout à fait d'accord avec eux. La conséquence de la grève, c'est que le taux de mortalité va augmenter, les gens ne fréquenteront plus les hôpitaux et pour les cas graves, il n'y aura pas de prise en charge, nous risquerons de les perdre. Je suis aussi d'accord avec Constance sur l'opacité dans la gestion de l'argent. Vous savez, au niveau de la commission, je préfère le dire, nous n'avons pas eu pour mission d'aller enquêter sur l'argent utilisé, mais nous avons plutôt vu travailler sur l'impact des mesures que le gouvernement a prises. Et effectivement, il y a un certain nombre de rubriques où les détails n'ont pas été communiqués correctement. Et s'agissant des listes, quand Constant le dit, je suis d'accord avec lui. Parce qu'en réalité, il devait y avoir... Et ça, nous le disons sur l'ensemble de la riposte. À part l'ordonnance du président de la République prise le 24 mars, où il y avait certaines mesures, le gouvernement n'a pas pris des mesures réglementaires. Il n'y a ni décret pour le fonctionnement des différentes structures, il n'y a pas d'arrêté spécifique sur l'opérationnalisation des mesures prises. Et j'ajoute encore une fois, il n'y a pas un arrêté du ministre de la Santé qui nomme les acteurs qui doivent faire le travail. Et je suis d'accord avec Constant qu'on doit connaître qui fait quoi. Et toutes les listes-là devaient être réglementées au niveau du ministère de la Santé, du secrétariat technique, bien sûr endossées par la commission multisectorielle. Je suis d'accord avec lui qu'on ne peut pas faire 3 mois à faire attendre des gens à cause tout simplement d'un problème de liste. C'est pourquoi j'ai dit peut-être qu'il n'y a pas ce, cet argent finalement que le gouvernement dit être disponible. Je donne l'exemple de l'hôpital sino-congolais, de l'amitié sino-congolaise. Cet hôpital qui a accueilli le premier cas le 11 mars, parce qu'on ne l'a pas dit suffisamment. Notre pays ne s'est pas préparé avant le mois de mars. La phase de préparation, de protection du pays contre l'entrée du virus a été ratée. La phase d'introduction du virus a également été ratée et c'est ce qui nous poursuit jusqu'à ce jour. À la phase d'introduction le 11 mars, on s'est retrouvé avec un cas index, le premier cas qui est arrivé, qui a été amené en catastrophe à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, où tout le monde a été en débandade, malades, médecins, personnel administratif, tout le monde a fui. Je préfère vous dire que jusqu'à ce jour, ce personnel n'est jamais rentré. Jusqu'à ce jour, la population refuse de fréquenter cet hôpital. Jusqu'à ce jour, cet hôpital se meurt. Aucun franc. On a aidé d'autres hôpitaux au niveau de Kinshasa, mais cet hôpital n'a rien reçu jusqu'à ce jour. Il n'y a ni malade, ni personnel, et l'hôpital est en train de se mourir. C'est tout simplement pour dire qu'il y a des responsabilités à établir, et dans une période comme celle-ci, JR, on ne devait pas avoir un problème comme celui des salaires du personnel, non. Parce que, au-delà de ce personnel qui devait travailler correctement, le gouvernement devait prendre des décisions responsables. C'est maintenant qu'il faut renforcer le système de santé. C'est maintenant qu'il faut allouer un montant conséquent au secteur de la santé, choisir quelques hôpitaux à Kinshasa et à travers le pays où on augmente le plateau technique. C'est-à-dire qu'on les renforce sérieusement. La Covid telle qu'elle nous a atteinte ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo, c'est pas la même chose que dans d'autres pays. Regardez le Brésil qui a les mêmes caractéristiques géographiques, climatiques que nous. Il y a plus de 60 000 morts. Mais ici chez nous, nous sommes encore à 198 ou 200 morts. Donc nous sommes la situation n'est pas celle qu'il y a dans d'autres. Et si nous avions cette situation-là, mais qu'on n'oublie pas que ce n'est pas la dernière épidémie, on risque d'avoir demain pire que la Covid-19,
et surtout,
aujourd'hui on n'est pas préparé, donc on sera en mauvaise situation demain.
Alors surtout qu'on va vivre avec, si vous nous accordez encore un peu de votre temps, honorable Félix Kabangé, le temps pour nous de prendre d'autres, auditeurs, Riffin notamment qui est à Kinshasa, qui est un des DT, et qui a participé parmi le personnel de la riposte. Alors docteur Riffin, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, monsieur le journaliste.
Alors, docteur Riffin, vous avez travaillé dans l'équipe de la Riposte. Quel était le rôle que vous avez joué dans cette équipe?
Merci bien, la Radio Capi, pour avoir pensé à nous, pour qu'on participe un peu à cette émission, qui est une interpellation à l'autorité congolaise pour ses responsabilités. Et je salue en passant l'ex-ministre Kabangé, et je suis tellement flatté
de l'entendre, de ses réactions.
Ce sont des actions tellement responsables. Merci, je passe vite à la question. Effectivement, j'ai été dans la riposte. Nous avons travaillé dans des checkpoints. Nous, on était positionnés à l'entrée sur l'avenue au commandement. Je crois, M. Kabangé, s'il était à Kim, ce temps-là, il voyait comment on travaillait là, vraiment jour et nuit. On dormait même là-bas. Notre rôle, notre travail était de sensibiliser les gens, de laver les gens les mains, de leur donner le message de protection contre le Covid. Nous avons travaillé 3 mois durant. Mais laissez-moi vous dire que jusqu'alors, nous avons perçu seulement un seul mois. Les 2 mois, pas encore. Nous avons travaillé dans des difficultés énormes. Mais jusqu'alors, l'autorité ne pense pas, ne songe pas à nous donner ce qui nous rejoint.
Ce qui vous est dû, ouais.
Voilà un peu...
Alors, à ce jour, voilà, votre inquiétude, vous avez au fait déposé un mémo que vous avez adressé au président de la République pour réclamer ces 3 mois, mais entre-temps, il y a le vice-ministre de la Santé qui accuse le ministre Eteni Logondo d'une gestion opaque. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu vraiment mégestion ou gestion opaque?
Effectivement, il y a une gestion, puisque, comment expliquer? Pour qu'il y ait une réussite. Voilà pourquoi il y a tellement de choses qui se passent même dans cette réponse. Et vraiment, je m'excuse bien pour parler de cette façon-là. Pour réellement qu'il y ait une réussite dans une activité comme celle-ci, d'ailleurs une très grande activité comme la riposte contre Covid-19, il y a des ressources qu'il faut d'abord bien mettre en place. La priorité, c'est d'avoir d'abord des ressources personnelles, la gestion des ressources humaines. On a ressources matérielles, on a ressources financières, on a les temps. Alors, vous nous avez pris pour travailler dans la riposte. Ça, on est déjà répertorié. Là, c'est pour revenir à ce que M. Félix disait. On est déjà répertorié. On est sur... nous avons un document, un ordre de mission qui nous a permis de descendre sur terrain. Ça, vraiment, c'est le premier point. Et le deuxième point, en étant même répertorié, nous sommes déjà budgétisés. Il y a déjà un budget prévu pour payer ces gens-là. Ah, alors, on ne comprend pas comment les gens travaillent et les gens ne sont pas payés. Bon, pour aller vite...
Et qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Pourquoi ces retards? C'est seulement à cause des listes ou il y a d'autres choses?
Mais rien ne dit, mais monsieur, je vous confirme que rien ne dit. Comment expliquer? Là où on travaillait, il y avait même des autorités qui passaient là-bas. Nous, en supervision, on nous a appris que quand vous êtes de passage dans une formation sanitaire, ou même si que votre mission c'est pour Katangoul, c'est pour Matadi, mais si vous passez vers Katangoul, vous devez vous arrêter pour superviser, pour demander aux amis comment vous travaillez. Mais c'est même une presse sur lesquelles de supervision. Mais nos autorités de la santé passaient par là. Ils nous voyaient comment vous travaillez. Quand même vous demandez comment vous travaillez. Quand même vous nous demandez comment ça évolue ici. Rien. Alors, c'est comme ça quand on a déconfiné Gombe, on est obligé de quitter.
Ce qui est en plus d'heure, on va vous libérer, docteur Riffin, parce que vous avez été dans la sensibilisation au niveau des checkpoints du haut commandement. Mais nous aussi, on passait par là souvent. Mais ce qui est en plus d'heure, à chaque checkpoint, on voyait les points d'eau, c'était des dons de l'OIM. Les thermoflashs, c'était des dons, soit de l'UNICEF ou d'autres partenaires. Mais qu'est-ce que l'État congolais a mis à votre disposition dans les checkpoints pour vous protéger, parce que vous êtes exposé?
Effectivement. Tout d'abord, j'aimerais donner une précision détail. Dans la gestion des risques des campagnes de consort, on a toujours des gens que nous appelons des PTF. Les PTF, ce sont des partenaires techniques et financiers. Un PTF, il peut être technique, que comme vous avez vu là, ils sont venus nous appuyer avec des matériels, avec des
oui, c'est aussi, ils étaient déjà préparés à la lutte, mais pas le gouvernement, comme l'a dit, la phase préparatoire avait complètement échoué. C'est ce qui a fait que nous avons beaucoup plus reçu des appuis et que les actions être opérationnelles nous-mêmes.
Mais non, écoutez, il y a eu tellement de fonds. Nous, à la cité, nous savons seulement qu'il y a eu des fonds. Le gouvernement a reçu des fonds. Mais ce fonds-là, l'argent que les différents partenaires ont donné au gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a fait avec cet argent? Voilà.
Alors, docteur Riffin, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps de libérer docteur Félix Kabangé, ministre honoraire à la santé. On va écouter Rabi. Rabi, vous êtes à Kikwit?
Oui, bonjour, Radio Kapi.
Oui, Rabi, vous avez la parole. Quelle est l'analyse que vous faites, vous, personnellement, dans cette situation où les vice-ministres accusent les ministres d'opacité dans la gestion de la lutte contre la Covid, et entre-temps, il y a les personnels qui réclament les 3 mois d'arriéré?
En fait, il n'y a pas grave à commenter. Nous constatons que il y a un désordre qui se passe au sein du gouvernement, parce que, comment vous pouvez comprendre que les gens qui ont travaillé, que vous avez mis en œuvre, et surtout dans cette situation qui englobe le monde et les pays en particulier, les gens qui ont travaillé après avoir été travaillés, n'est pas encore rémunéré. C'est un peu compliqué. Il y a une contradiction que nous avons remarquée entre les autorités. C'est-à-dire, cette situation, ça montre que jusque-là, les gens travaillent pour leur intérêt. Alors, il y a des côtes-parts qui ont réussi de leur part, et puis ça n'a pas donné les résultats pour ceux qui ont travaillé. Alors, nous demandons au chef de l'État peut-être de prendre toutes ces mesures en fait que les choses puissent aller de l'avant pour ne pas arriver dans des telles situations pour
elle. Vous parlez de quelle mesure?
Alors,
vous parlez de quelle mesure? Quelle mesure?
Bon. C'est-à-dire, le suivi que nous voulons, parce qu'il y a un désordre dans l'administration.
Merci beaucoup.
Il y a un désordre que nous constatons.
Merci beaucoup, ravi d'avoir appelé de Kikwit, 081-890-6330, ou encore le 081-890-4969, votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'intervenir directement dans cette émission sur notre page Facebook, ou encore dans pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Docteur Félix Kabangé, vous avez suivi la réaction tout à l'heure de Docteur Rifa, également de Rabi. Quelle est votre réaction? Parce que lorsque nous analysons l'appui des partenaires techniques et financiers, on se rend compte que finalement, les efforts étaient consentis beaucoup plus vers les partenaires que de manière opérationnelle par nous-mêmes.
Je l'ai dit tout à l'heure, JR, que nous nous retrouvons avec un plan budgétisé à 135 millions, et les 135 millions sont couverts, il y a 58 millions qui sont déjà engagés, et donc 42% qui sont déjà libérés. Donc, il faut que nous fassions la part de choses. En fait, c'est tout à fait normal que les partenaires puissent nous accompagner. Voici ce qui se passe. On présente le plan au niveau des partenaires, et chacun dit dans le secteur où il intervient, je m'excuse, que sa contribution va aller dans tel secteur, sur le plan technique, sur le plan financier. À ce moment-là, le gouvernement doit combler justement les autres secteurs où il n'y a pas d'acteurs, où il n'y a pas de partenaires qui influencent. Mais le secteur dont nous parlons actuellement, le secteur des primes, de la riposte, c'est un secteur qui doit être de souveraineté. Parce qu'en réalité, les autres peuvent nous aider, ils peuvent nous donner le matériel, mais pour motiver son propre personnel, c'est d'abord une question du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc il est important, au-delà de tous les dons qui doivent être expliqués, parce que nous attendons aussi qu'on puisse nous expliquer tout ce que nous avons reçu comme dons, et pour qu'il n'y ait pas double dépense. Parce qu'il ne faudrait pas que quelque chose qui a été donné par un partenaire technique et financier, que le gouvernement dise avoir financé la même chose. Donc tout ça, il faudrait qu'on ait de la lumière là-dessus. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à ce travail qui a été fait, et même par rapport à Rabi qui dit que les gens travaillent plus pour leur intérêt que pour l'intérêt des autres. Mais de tout ce qui précède JR, j'aimerais dire une chose. Très importante. Il y a eu un des interlocuteurs tout à l'heure, qui a été auditeur, qui est revenu sur le fait qu'il pensait que j'allais parler en politicien. Nous sommes sur une question vraiment technique, une question de survie de la nation. Donc nous ne pouvons pas aller sur ça. Mais je voudrais faire un appel. Un appel, JR. Sous d'autres cieux, vous voyez que les gens ils ne savaient pas sortir. Mais à une heure fixe, ils se mettaient tous sur leurs immeubles. Ils étaient en train d'applaudir le personnel de santé. On voyait que dans les hôpitaux, les gens s'organisaient en solidarité pour aller appuyer ce personnel de santé. Cet élan de solidarité, nous ne l'avons pas chez nous. Voici que 3 mois après, le personnel n'est pas payé. Nous ne voyons pas des voix s'élever. Nous, les politiciens, je nous condamne, nous, que nous soyons FCC, que nous soyons Lamouka, que nous soyons Cash ou autre. Je pense qu'il était temps, au lieu de faire toutes ces marches dont l'intérêt est un peu plus personnel, parce que c'est un problème d'intérêt par rapport aux prochaines élections, par rapport à ceci que nous faisons ces genres de marches, est-ce que nous ne pouvions pas pour une fois faire une marche pour demander au gouvernement, une marche pacifique, demander à ce qu'on puisse payer les 3 mois, que peut-être qu'il y ait une solidarité de tous les travailleurs, qu'on puisse arrêter le travail pendant une journée seulement, et qu'on dise, nous arrêtons parce que nous voulons que le personnel de riposte soit payé. Nous savons qu'il est insuffisamment payé. La prime n'est pas proportionnelle au risque, JR. J'ai des larmes aux yeux. Si je dois t'expliquer ce que j'ai vu, dans quelles conditions le personnel travaille. Là, nous parlons des primes. JR, est-ce que vous savez que dans certaines structures, le personnel qui entre manque des masques? Et mmh. ils entrent avec des masques en tissu qu'on ne peut pas entrer avec là où il y a des personnels Covid. Le personnel manque de lunettes. Le personnel manque même des gants. Donc, nous sommes dans une situation très critique.
Alors, juste une question de curiosité. Vous avez été ministre à la Santé et à l'époque, vous avez fait face d'ailleurs à plusieurs, ripostes des différentes maladies qui se sont déclarées, et, soit dans la capitale ou encore dans, en province, pour ne pas citer les cas de rougeole ou encore la lutte contre la poliomyélite. Et comment vous avez fait, vous, personnellement, parce qu'on n'a pas eu assez de plaintes des agents qui étaient commis ou déployés dans ces genres d'activités, soit des routines ou encore des masses. Alors, comment vous avez fait pour le personnel et qui n'était pas budgétisé au niveau du budget national, du budget de l'État, mais qui, en d'autres termes, devait bénéficier du budget connexe ou encore de catastrophes qui survenaient. Et comment vous êtes en tiré?
Merci beaucoup, GR. Je préfère d'abord dire, parce qu'il faut beaucoup de modestie dans ce genre de choses, l'épidémie qui sévit actuellement, elle est différente des autres épidémies que nous avons connues dans le pays. Ça, c'est une première précision. La deuxième, j'ai dit que la phase de préparation a raté. Je ne peux pas comparer ce qui se passe actuellement aux épidémies de rougeole, poliomyélite et autres. Je préfère aller sur Ebola, qui a un taux de mortalité plus important que COVID-19 que nous sommes en train de vivre. Alors, j'aimerais le dire. La première des choses, c'est cette promptitude dans la prévention. La plupart de cas, d'ailleurs, l'épidémie d'Ebola, elle est diagnostiquée après qu'on ait eu déjà quelques cas de décès. C'est généralement quand il y avait un personnel de santé qui mourait, que cela sonnait l'alerte. C'était déjà 2 semaines avant, 3 semaines ou même 1 mois que l'épidémie sévissait. Alors, dans la technique, c'est beaucoup plus la participation communautaire. Donc, la première des choses, c'était l'implication des communautés locales pour leur présenter leur responsabilité. On ne peut pas vaincre la COVID telle que nous l'avons aujourd'hui sans que la participation communautaire ne soit effective. Malheureusement, à Kinshasa, plus de 60% jusqu'à ce jour vous dit qu'il n'y a pas Ebola et qu'il n'y a pas plutôt COVID. COVID, c'est un problème de la Gombe, c'est un problème de ceux qui voyagent, ainsi de suite. Deuxièmement, c'est la motivation du personnel. En fait, je peux donner l'exemple. Des chiffres, nous les connaissons. Nous avons géré l'épidémie d'Ebola de Isiro avec $300,000. L'épidémie de Djera, qui a été la plus grave pendant qu'on avait l'épidémie en Afrique de l'Ouest, c'est avec $600,000. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cet argent? C'était d'abord identifier les acteurs de terrain, motiver les acteurs de terrain, motiver le personnel de santé, parce que eux ont fait le travail et en 40 jours, en 50 jours, on pouvait maîtriser la situation parce qu'ils étaient motivés. Et on faisait, une fois qu'on sortait cet argent et qu'on prenait tout le matériel qu'il fallait pour la prévention au niveau périphérique, on se référait aux partenaires techniques et financiers. Quand nous avons dépensé $600,000 au niveau de Djera, par exemple, à l'Équateur, mais vous verrez que nous avions pu mobiliser 7, 8 ou 10 millions de la part des partenaires pour les autres aspects que nous avons pris en compte. Mais eux ne pouvaient pas aller payer ce chef coutumier, ce préfet qui devait circuler pour aller sensibiliser, pour aller chercher les cas, pour aller suivre les contacts. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont dans la commission de suivi des contacts, de suivi des cas, qui se retrouvent nombreux, sans transport, sans argent, sans moyens de protection et qui doivent aller chercher les cas dans la communauté. C'est difficile. Donc, le peu d'argent que nous pouvons avoir, il faut les mettre là où nous pensons que les partenaires ne viendront pas. Il faut les mettre dans la motivation du personnel, des ressources humaines, de tous ces acteurs de terrain, parce que quand ces acteurs sont motivés, ils vous donnent des informations vraies, et quand vous avez l'information vraie, vous pouvez prendre la décision en temps réel, et il faut être sur terrain pour essayer de suivre tout cela afin de pouvoir avoir des résultats. Mais je répète encore une fois, l'épidémie que nous avons actuellement ne peut pas se comparer aux autres épidémies, mais si on avait en amont on avait vraiment préparé cette riposte, peut-être que nous n'aurions pas le résultat que nous avons aujourd'hui. Je termine encore une fois en saluant le personnel de santé pour son abnégation. Le personnel de riposte, parce qu'il ne faut pas voir seulement le personnel de santé, hein. Il y a toute une panoplie de personnes non médicaux, de personnels non médicaux qui en fait sont en train d'appuyer. Il y a la police, il y a les autres services qui sont en train de faire respecter les mesures. Toutes ces personnes n'ont pas reçu de prime. Je les salue pour le travail qu'ils sont en train de faire et je demande au gouvernement de la République de faire diligence et sans délai de pouvoir payer ces prestations et de les encourager parce que nous devons apprendre à vivre avec la Covid. Sinon, vous serez surpris, nous allons vivre un effet rebond, un effet deuxième vague qui risque d'être plus grave que ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui.
Docteur Félix Kabangé, je ne sais pas vous retenir encore plus longtemps, on va poursuivre cette émission seulement avec les auditeurs parce que vous avez d'autres charges maintenant, en tout cas vous nous avez accordé les 30 minutes mais on est allé au-delà, nous nous excusons pour cela.
Merci JR et merci aussi à tous les auditeurs et toutes mes excuses, mais je reste de cœur avec eux.
Je vous en prie. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Je dis à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, à nos staffs, à ceux qui nous sont chers, à tout le monde, il ne faut pas paniquer, mais il faut absolument écouter ce qu'on vous demande et protégez-vous, protégez les autres, ne prenez pas de risques. Et si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à demander à ceux qui peuvent vous aider. Je dis aussi que la quarantaine n'est pas une menace. La quarantaine est une mesure de prévention. Ça permet d'identifier les contacts. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire « j'ai contacté quelqu'un ». Parce que parfois, les gens, ils ont peur d'être stigmatisés. Ils ont peur qu'on les identifie comme malades. La quarantaine nous permet d'éviter la propagation. Si les gens sortent de la quarantaine, ça veut dire qu'ils n'ont pas la maladie. S'ils avaient la maladie, ils ne sortent pas. Ils sont mis dans un endroit où ils sont isolés. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas cacher qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été identifié comme malade. Au contraire, il faut le faire. Il faut faire attention parce que c'est ça le message. Le message, on va gagner. Regardez les pays de l'Asie. C'est le premier qui a été affecté. Qu'est-ce qui leur a permis de maîtriser la maladie? On le voit dans toute l'Asie, c'est quelques cas qui restent parce qu'ils ont respecté les instructions qui ont été données par leur pays. Donc je vous demande, c'est le message que j'envoie, nous sommes ensemble, c'est une maladie qui va affecter tout le monde si on ne fait pas attention et si on ne prend pas les précautions pour réduire la propagation du virus.
Ceci est un message de Mme Leïla Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue et la parole aux auditeurs. Pascal, vous êtes à Bounia?
Oui, bien sûr, je suis à Bounia.
Quelle est votre réaction, Pascal?
En tout cas, merci pour cette opportunité qui n'arrive pas chaque fois. Nous regrettons tous cette de musician qui caractérise nos autorités au sommet et un désordre qui prouve l'insuffisance et qui en manque d'une bonne gestion des ressources humaines. Comment doit-on négliger ces personnels qui se sacrifient, qui donnent leur vie avec tous les risques de les perdre quand nous connaissons comment cette maladie contamine les gens? Mais nous regrettons amèrement quand on suit qu'ils sont en train d'accumuler les mois d'arriérés, les impayés, etc. Et que font ces autorités? Est-ce qu'ils ont la conscience? Dernièrement, on avait suivi que le ministre de la Santé, lui, il disait qu'on devait harmoniser les listes pour que ces gens-là soient payés. Où en est-on? C'est regrettable, monsieur le journaliste. Et nous connaissons bien sûr que c'est là où prêter serment pour rendre service, sauver la vie de leurs compatriotes. Mais de l'autre côté, on devait aussi songer à s'occuper convenablement de ces professionnels de santé. Donc, ça fait mal. Et, monsieur le journaliste, je vais peut-être vous faire une révélation. Nous connaissons, une fois qu'on a injecté l'argent, beaucoup de gens tombent sur cet argent, on oublie l'essentiel. Et avec l'Ebola, nous avons vu, nous sommes à l'Est, nous connaissons ce que l'Ebola a fait à Bénie, Bounia, etc. Il nous est arrivé à un moment donné où on a constaté que tout cadavre était devenu l'objet de commerce. On avait perdu l'un du nôtre.
Il y a quelques temps, on a même appris que dans une des provinces, les gouverneurs et les vice-gouverneurs, ça sont venus aux mains parce que il fallait que ça soit clair le montant qui a été affecté dans la lutte contre la Covid au niveau de cette province devait être partagé par les deux. Finalement, il y avait cette confusion. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir appelé. Alors, Dia, vous êtes à Kinshasa. Vous avez été membre de la Riposte également, comme Rifin qui est d'ailleurs en ligne, qu'on va également rejoindre des moments à l'autre. Dia, monsieur Dia, vous êtes avec nous.
Nous sommes là avec vous, monsieur le journaliste. Je suis très ravi de vous d'être en contact direct sur Radio Capitre.
Donc, vous n'êtes pas payé 3 mois d'arriéré des salaires.
Nous sommes 3 mois impayés d'arriéré de salaire, comme a dit mon ami de l'autre côté. Nous sommes là, nous avons travaillé avec affection. Nous avons eu à travailler 24 heures sur 24 heures. On partait même avec nos propres transports. Nous sommes là 3 mois impayés.
Ben alors, dites-nous, si ce n'est pas un secret, combien avez-vous touché le premier mois?
Bon, pour le premier mois, on nous a appelé. On avait d'abord un arriéré d'un mois de mars. Nous avons eu à toucher le mois d'avril un mois de $380. $372, oui.
$372. Donc chaque agent commis à ses services ne touchait que $370.
$372, oui. $372.
Avec tous les risques que ça représentait, il n'y avait pas de prime de risque.
Il n'y avait pas de prime de risque, il n'y avait même pas les transports. Nous passons même de garde. Pour ceux qui nous connaissent, nous étions les gens du terrain. Nous sommes même les gens du terrain. On était dans le frontière, les entrées. Les gens passaient.
Parce que cette rémunération est margée dans quel budget? Le budget de l'hôtel de ville ou bien c'était c'est l'équipe de Riposte, la coordination que pilote Docteur Mouyembe qui vous prenait en charge?
Vraiment, nous étions appelés à passer à la banque Access. On nous a pas vraiment expliqué si c'était le gouvernement qui nous a payé ou soit c'était le type de Riposte. Nous travaillons beaucoup plus avec notre partenaire, c'était OIM, qui nous occupait de la logistique.
OIM.
Pas pour le matériel, oui. Ça, on voyait le matériel comme ça. On nous a mis
Parce que nous avons vu dans les points d'eau, c'était les dons des OIM et les thermoflash. La plupart, semble-t-il, c'était pour d'autres partenaires financiers. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Dia, de nous avoir éclairé à ce niveau. Alors, Rifin, on revient à vous, Rifin.
C'est moi qui vous remercie, merci.
Rifin, vous êtes avec nous en ligne, docteur Rifin.
Oui, je suis là, monsieur Gir.
Alors, docteur Rifin, qu'est-ce que vous avez encore ajouté pendant tout ce temps et que vous avez remarqué cette guerre entre les ministres et les services? Et quelle lecture faites-vous par rapport à ça, par rapport à cette guerre?
Bon, moi, je comprends juste qu'ils sont venus remplir leurs poches, simplement, puisque là où ils sont, ils représentent, bien sûr, ils sont sortis de plateformes, de partis politiques. Mais une seule fois occupés le poste qu'ils sont en train d'occuper, ils doivent oublier leur appartenance politique. Là-bas, c'est pas la politique. Là-bas, c'est le service du peuple. Il faut servir le peuple. Alors, ils ont oublié ça. Enfin, écoutez un peu ça, M. Gire. Ça s'explique pas. Hein, le ministre, les titulaires, son vice, ils sont appelés à collaborer, à travailler ensemble, à faire tout ensemble. Mais comment expliquer, le titulaire, il fait seul d'autres histoires, surtout l'aspect finance et les aspects, je sais pas moi, logistiques, c'est son vice qui fait ça. Voilà pourquoi, là où il y a toujours il y a la gestion de l'argent et que cette gestion n'est pas claire, n'est pas sérieuse, il y a toujours des choses comme ça. Voilà pourquoi nous retrouvons maintenant devant une gestion qui est irrégulière, c'est suite à ce comportement. Ce que moi je peux vraiment leur demander, c'est d'oublier.
Alors aucune promesse ne vous est faite jusqu'à ce jour. Est-ce que le gouvernement vous a fait une promesse? Quand est-ce qu'on va vous payer?
Monsieur Gilles, je crois que ça c'est la deuxième fois d'insister là-dessus. Nous n'avons eu aucun message, aucun communiqué, aucune information qu'on va nous payer. Voilà pourquoi je disais que quand on était même sur terrain, on n'était même pas visité, à part notre direction, PNHF qui venait quand même nous visiter, nous encourager, qu'on sort. Mais le gouvernement, que ce soit les gens du cabinet ministériel, les gens du secrétariat, que ce soit les secrétariats administratifs ou les secrétariats de la réponse, personne n'est passé pour nous encourager.
Même pas la présence de la présidence de la République, parce que c'est la présidence de la République, l'équipe de riposte est pilotée par un coordonnateur au niveau de la présidence de la République.
Mais je vous dis négatif. Négatif, seulement notre programme, la direction qui passait pour nous encourager.
Voilà, merci.
Si vous pouvez me suggérer, il y a même des gens qui ne respectent même pas les consignes qui ont été données par l'équipe de la réponse. Certains ne voulaient même pas s'arrêter. Certains ne voulaient même pas retempérer.
Donc, je comprends bien qu'il y a des risques de vous exposer, mais malheureusement, la prime n'a pas suivi. Et l'autorité ne vous a pas accompagné, ne vous a pas soutenu. Alors on ne sait pas l'argent, par où est passé cet argent. Merci beaucoup, docteur Riffin, d'avoir accepté de participer dans cette émission. Alors, ensemble avec docteur Félix Kabangé, qui est le président de la commission d'évaluation au niveau du Parlement, donc d'évaluation d'impact de la COVID-19, et qui nous a donné chiffres à l'appui. Mais nous regrettons en même temps que ces débats soient sur la toile et que ceux qui ont lancé ces débats sur la toile n'ont pas pu s'assumer, donc prendre le courage de venir répondre sur les ondes des radios Okapi. En tout cas, nous avons fait toutes les démarches en contactant le ministre de la Santé qui n'avait pas pris le téléphone, le vice-ministre, et qui a dit il ne saura pas parce que c'est lui qui avait lancé les débats sur la toile. Mais qu'à cela ne tienne, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous tous qui avez participé à cet échange citoyen. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Sylvain Bangouéré et Pierrot et la Mégie. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Thank you.